Je vais parler aujourd'hui de Rimbaud, comme vous le savez. Comme vous le savez aussi, le sujet de ces cours est la poésie française et la recherche de l'être. Et j'aimerais souligner le mot « recherche », car la recherche de l'être suppose évidemment que l'être n'est pas donné. La poésie existe peut-être en partie précisément pour faire cette recherche nécessaire. Le mot suppose aussi que quelque chose ne va pas, le fait que nous ne sommes pas spontanément, immédiatement en communication avec l'être me semble être un problème, et que le « je » n'est pas ou n'est pas pleinement, que tout ce qui nous entoure n'est pas ou n'est pas pleinement. Et les poètes voient le problème en le prenant, comme vous le savez, plus ou moins au sérieux. Ce n'était pas, par exemple, un problème angoissant, si je l'ai bien compris, pour La Fontaine. C'était un problème sérieux, mais pas angoissant. Pour Rimbaud, au contraire, qui est à l'autre extrême en quelque sorte, c'était un problème absolu, insoluble, et qui a fini par le détruire comme poète. Et Rimbaud, pendant la courte période où il écrivait, a même trouvé les formules les plus justes pour le dire. C'est tout à fait extraordinaire, cette fulguration du très jeune Rimbaud. Avant de quitter la poésie, il a trouvé les formules les plus justes pour dire le problème de l'être. Par exemple, vous connaissez ces expressions parce qu'elles sont très connues. « Je est un autre », par exemple, qui suppose que « je » est à la troisième personne, ou « nous ne sommes pas au monde », ou « la vraie vie est absente ». Des expressions tellement simples en un sens, mais aussi fulgurantes et tout à fait imprévisibles, et qui sont restées dans la conscience de tous. Et il sait tout cela à 16 ans et un peu après. Et ce qui est si attirant chez Rimbaud, c'est qu'il a vécu l'adolescence plus profondément que quiconque. Je ne connais aucun autre adolescent comparable à Rimbaud. Des poètes précoces, bien sûr, il y a beaucoup de poètes qui ont commencé à 16 ans ou même avant, mais personne n'a vraiment vécu avec cette profondeur ce qu'est l'adolescence. C'était le grand bonheur, en quelque sorte, de Rimbaud, ce qui le différencie de tous. C'était aussi son malheur. Et après tout, quand nous quittons l'enfance, au moment de l'adolescence, quand nous quittons l'enfance, nous perdons l'Éden au moment même où nous en concevons l'idée. Et c'est cela, me semble-t-il, que Rimbaud a approfondi. Nous sommes conscients d'avoir perdu ou de ne pas avoir, tout simplement, ce qu'il appelle le monde, la vraie vie, et nous cherchons notre « je » absent. Autrement dit, une lecture approfondie de Rimbaud peut faire penser que, d'un certain point de vue, l'adolescent voit juste. D'où la démesure géniale d'Une saison l'enfer, écrite à 18 ans, et des Illuminations, écrites à peu près à la même époque. Peut-être qu'il faudrait dire que Rimbaud a non seulement vécu très profondément l'adolescence, mais qu'il l'a très heureusement prolongée. Mais très jeune aussi, on peut penser que Rimbaud demande tout simplement trop à la poésie. Voyons si juste, avec toute la crise de l'adolescence autour de ces, illuminations, ces révélations fulgurantes que l'on sait. Rimbaud était aussi très trouble, et les jugements qu'il formule sur les poètes du passé sont la plupart du temps les jugements très immatures, comme on dit en français moderne, que n'importe quel adolescent peut formuler. Mais au moment où il plonge dans la vérité de l'adolescence, il demande naturellement à en sortir. Il demande quelle est la solution de l'être. Et étant le très grand poète qu'il était, il demande à la poésie, en quelque sorte, de le sauver, de lui donner l'être, de lui donner le « je », de lui donner le monde, lui donner la vie. Il demande trop à lui-même aussi, comme il le sait. Une autre dimension merveilleuse de la poésie de Rimbaud, c'est qu'il sait déjà, bien avant nous, de quoi il s'agit. Et presque tout ce qu'on dit à propos de Rimbaud est simplement un commentaire de ce que ce petit génie, petit dans le sens qu'il n'a pas écrit pendant très longtemps, savait pertinemment et bien mieux que nous à un âge peu avancé. Mais il demande aussi trop à lui-même, comme il le sait. La dernière section d'une saison d'enfer, il dit qu'il a voulu être mage ou ange. Et c'est une expression à méditer, parce que beaucoup de poètes modernes ont voulu, à leur manière, être mage ou ange. Mage dans le sens qu'ils avaient les secrets de la vie, je viens de parler de Breton, ou ange dans le sens qu'ils se sont supposés, en quelque sorte, au-dessus des problèmes de l'être et du mal. À cause de tout cela, je vais... j'ai l'intention de relire deux poèmes de Rimbaud écrits avant la crise, avant ses grandes œuvres, pour trouver un autre possible chez Rimbaud, une autre façon de rechercher l'être. Je ne vais pas plonger dans cette adolescence de Rimbaud. Et les poèmes sont « Au cabaret vert » et « La maligne », écrits en octobre 1870, et je vous donne la date, non pas simplement par une sorte d'habitude, mais parce que c'est le mois de ses 16 ans. Il n'a pas tout à fait 16 ans quand il écrit ces deux poèmes pendant une fugue en Belgique. Voici le premier. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais mes jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Notons d'abord le jeu du poème, le jeu qui est surtout décontracté. J'allongeais les jambes, qui est naïf et savant. Les sujets très naïfs de la tapisserie, pour le remarquer qu'ils sont naïfs, il ne faut pas être naïf, mais il faut aimer la naïveté. Il prend des adjectifs dans le christianisme pour les détourner, encore une fois, d'une façon décontractée, comique. Il est bien heureux, il n'est pas bien heureux devant Dieu, il est bien heureux dans un café. Il trouve adorable non pas les mystères de la religion, mais l'approche d'une fille aux formes généreuses. Et dans la Maligne, il y a même une prétendue ignorance. Dans l'autre poème que vous avez, il mange je ne sais quelle mets belge. Il dit que la servante s'approche de lui, je ne sais pas pourquoi. En fait, il le sait pertinemment. Et il me fait penser à La Fontaine, curieusement, qui, dans Le Héron, par exemple, quatrième fable du septième livre, dans Le Héron, commence ainsi, « Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. » J'ai parlé de ce « je ne sais où » dans un autre contexte, il y a deux ou trois ans. Et ce n'est évidemment pas la même chose chez Rimbaud, mais chez les deux poètes, il y a une sorte de coup d'œil au lecteur, la volonté de remplir quelques syllabes d'un vers avec des mots qui ne contribuent pas efficacement au poème, mais qui l'ouvre précisément vers le lecteur. Et le décontracté du jeu se sent surtout dans le décontracté du poème. Comme de juste, d'ailleurs. Un poème n'est pas une série de phrases où l'on dit quelque chose, mais une forme où se passe quelque chose, où passe, par exemple, le décontracté du poète. Et on le voit dans le sujet du poème, qui est le quotidien, précisément, l'ordinaire, le trivial. On le voit dans la forme. Pourquoi un sonnet ? Peut-être, même je dirais certainement, pour que le sonnet soit décontracté. Le sonnet est une forme particulièrement contractée, pour ainsi dire. Rimbaud le choisit pour pouvoir le décontracter dès le premier vers. Dès le premier vers, l'alexandrin, comme Rimbaud, se relaxe. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines. Personne, je crois, ne lirait « Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines », comme il faudrait le faire pour respecter les mystiches. Le premier vers de La Maligne commence de la même façon. Dans la salle à manger brune que parfumait, encore une fois, on ne lit pas dans la salle à manger brune que parfumait. Je remarque que c'est dès le premier vers que le sonnet annonce qu'il est décontracté et que c'est dès le premier vers que la syntaxe et la prosodie se séparent. C'est intéressant pour un Anglais, si je peux parler de mon point de vue, parce que le français a l'avantage de règles rigides. On ne peut pas faire ça en anglais. L'avantage des règles rigides, c'est précisément que, ou bien on peut se discipliner merveilleusement et avec bonheur à les respecter, ou bien on peut les enfreindre. Le décontracté du poème se trouve aussi dans les mots. Dans La Maligne, Rimbaud écrit le mot « mais », un plat, M-E-T, sans le S. Et si vous regardez dans les notes de la Pléiade, vous trouvez une note tout à fait sensée qui suppose que Rimbaud refuse à faire rimer une forme sans S avec une forme ayant un S final. Le mot rime avec, je suis obligé de chercher, parfumé. Et il est vrai que, curieusement, cette règle existait dans la prosodie française. Il n'était pas licite de faire rimer un pluriel avec un singulier. Ou, je suppose au départ, tout simplement parce que l'S du pluriel était prononcé. Si Ronsard avait fait rimer chose avec roses, des roses au pluriel, il n'aurait pas fait rime. Mais même quand les Français ont commencé à ne plus prononcer l'ess du pluriel, à un certain moment, ou sans doute au XVIIe siècle, la règle est restée. C'est très curieux, parce que ce n'est pas une règle pour les oreilles, évidemment. Mais même au XIXe siècle, on ne pouvait pas faire rimer les prémices avec une saucisse. Je ne sais pas pourquoi je choisis cet exemple en particulier. Mais est-ce qu'il faut supposer que Rimbaud, pensant en lui-même, il y a quand même des règles à la prosodie française, donc je vais écrire le mot mais, M-E-T, le fait simplement pour obéir à la règle, ou est-ce au contraire qu'il faut penser que, sachant qu'on ne peut pas écrire le mot M-E-T-S sans l'S final, il le fait pour montrer comiquement qu'il obéit à une règle dont il se fiche finalement. Ça fait partie du comique du poème, du décontracté. Le poème est décontracté aussi par rapport à la poésie du passé. Le personnage féminin qui s'approche du poète, rieuse m'apporta, rieuse au début du vers, fait penser aux nymphes, aux déesses de la poésie du XVIe siècle. Au dernier vers, que dorait un rayon de soleil arriéré, fait penser de nouveau à la poésie du XVIe siècle, où le dernier rayon du soleil aurait tendance plutôt à illuminer la proue d'un navire, par exemple, ou un champ de blé. Et substituer aux objets, disons, sublimes, évidemment poétiques, de Roussard et d'autres, une mousse de bière fait partie de la stratégie du poème, de se décontracter. Et notons que ce n'est pas une parodie, ce n'est pas la déraison, la dérision d'une autre sorte de poème. C'est comique, c'est aimable, c'est plein d'une joie de vivre toute simple. C'est tout à fait supérieur à un poème qui s'appelle « Ma chope » d'un certain Jules Forny, que tout le monde a à l'esprit. « Ma chope » qui se termine « À travers le soleil, je regarde la bière. L'écume immaculée arrive sur le bord comme un flocon de neige au-dessus des flots d'or. » C'est tout à fait aimable, c'est une sorte de parodie de la poésie précieuse du XVIIe siècle. Je n'ai rien contre, c'est même très bien écrit. Il devait être très content de l'écume immaculée. Il se comparait peut-être d'ailleurs à Mallarmé à ce moment-là. Mais la description n'effectue rien, c'est simplement joli. Et notons aussi la discipline de cette liberté. Rimbaud se donne une grande liberté, mais il se la donne comme poète et comme un très grand poète. N'importe qui peut écrire mal. On n'a qu'à ouvrir les livres proposés dans les librairies pour en être persuadé. Mais il faut être un bon écrivain pour discipliner son corps, c'est-à-dire le corps du poème, avec suffisamment de maîtrise pour qu'il se détende. Et on voit la discipline dans les choses que j'ai déjà mentionnées, mais aussi dans les sons, les vers 2 à 3. J'avais déchiré mes bottines au caillou des chemins, j'entrais à Charleroi. Si c'était dans un poème anglais, on dirait même que ces trois « che » qui reviennent sont imitatifs. C'est un peu comme le déchirement des bottines sur les cailloux. On le dirait s'il s'agissait d'un poème anglais, je ne dis pas dans ce cas précis. Au vers 5, j'allongeais les jambes. Au vers 13, la chope immense avec sa mousse, immense mousse. Et ces répétitions de sons ne sont pas simplement jolies, ne sont pas là parce que les poètes savent qu'il faut de temps en temps faire des allitérations, etc. ces répétitions sont là pour faire le rythme et la beauté du poème, pour que le poème soit vraiment formé. Aussi pour le simple plaisir du lecteur, qui est, après tout, important. Et on voit la discipline aussi dans les verbes. Pour le moment, je ne parlerai que d'un seul, le mot « fut » à la fin du premier quatrain, subjonctif, évidemment, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait sur les tartines de beurre, et qui est là, évidemment, parce que Rimbaud s'amuse et veut que le lecteur s'amuse. Dans sa traduction, entre parenthèses, Ezra Pound, qui était un très grand traducteur, manque cet effet, peut-être parce qu'il l'a voulu. Je ne critique pas Pound, hein, il faisait à sa guise, mais il est vrai que si jamais vous lisez sa traduction de ce poème qui est très beau, vous ne trouverez pas ce petit effet. Et puis, il est vrai, il est évident aussi que Rimbaud, à l'âge très mûr de presque 16 ans, étudie le rythme du poème. Bienheureux j'allongeais. Deux mots seulement pour remplir ce premier hémistiche, où d'ailleurs il se sert de l'hémistiche, il ne s'en moque pas. Ou les rejets. Bienheureux j'allongeais les jambes sous la table verte. Rimbaud allonge le vers, comme il allonge ses jambes. Ou au vers 3-4, des tartines de beurre. Au vers 11, il y a même un contre-rejet interne, pour employer le vocabulaire des initiés, du jambon tiède dans un plat colorié. On ne s'arrête pas après dans du jambon tiède dans un plat colorié. Le plus intéressant pour moi de ces rejets, c'est au vers 3, au cabaret vert, je demandais des tartines au lieu de au cabaret vert, je demandais des tartines. C'est le plus intéressant parce que c'est le mot je qui disparaît presque, non pas pour montrer l'angoisse du poète, mais au contraire, pour montrer son décontracté. Il n'a pas besoin d'affirmer son « je » parce que son « je » est là, de toute façon. Malherbe, pour changer de sujet, non, Malherbe écrit dans une lettre à Racan, « On dira que nous avons été deux excellents arrangeurs de syllabes, que nous avons eu une grande puissance sur les paroles pour les placer si à propos, chacune en leur rang. » Alors, il va sans dire qu'on désapprouve ce passage en général. Il y aurait peut-être des choses moins négatives à en dire, je ne vais pas les dire maintenant, mais je remarque que Rimbaud, dans ce poème, est un excellent arrangeur de syllabes, avec un talent certain pour déplacer les paroles, et après tout, c'est en plaçant et en déplaçant bien les mots que l'on ne fait pas simplement une sorte de travail de menuiserie, mais que l'on découvre un mot bien placé, révèle quelque chose. Il y a le « je » et son caractère décontracté. Il y a deuxièmement le fait que Rimbaud cherche son être dans ce rapport avec l'être du monde, avec le quotidien, les objets que l'on rencontre. Et il les mentionne tout simplement selon le rapport qu'il crée avec eux. Déchirer mes bottines au caillou des chemins. J'allongeais les jambes sous la table. Et pourquoi dire qu'elle était verte ? C'est un détail presque anglais, un détail inutile, superflu, mais qui ajoute énormément au poème. On a découvert évidemment qu'il y avait à Charleroi non pas un cabaret vert, mais une auberge verte ou quelque chose comme ça, où tout était vert, la porte d'entrée, tous les panneaux à l'intérieur, et puis les tables, les murs. Il mentionne le rapport entre contre lui-même et les objets, de façon un peu différente de l'anglais quand même. J'ai parlé curieusement avec, dans le dialogue avec François Cheng il y a quelques semaines, du moment où Rimbaud parle d'avoir déchiré ses bottines aux cailloux des chemins. Et j'ai dit, je le redis, que un Anglais peut trouver tout à fait magique cette préposition « à ». Parce qu'un Anglais dirait évidemment « on », hein, c'est sur les cailloux du chemin, des chemins que l'on déchire ses bottines, c'est évident. Alors que « à » signifie à la fois qu'il y ait ce contact et que l'on peut parler en même temps d'un rapport qui n'est pas de contact. Il y a les bottines, il y a les chemins, et entre eux, il y a « à ». J'ai déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. C'est très beau pour un Anglais. Je ne pense pas que dans la poésie anglaise, nous ayons cette ressource-là. Il se met en rapport aussi avec le lieu. Pourquoi donner le nom de la ville ? Sans doute d'abord pour créer un rapport avec une ville en particulier. Il ne dit pas « j'entrais dans la ville », mais « j'entrais dans Charleroi ». Peut-être aussi, pour une raison très particulière, que « être à Charleroi » signifie qu'on n'est pas à Charleville. Charleville, qui était la ville de Rimbaud, où il était particulièrement malheureux, et qu'il avait fui précisément pour aller en Belgique. Notons aussi la mise au point de l'image au début du poème. Les chemins, Charleroi, le Cap Rivert, des tartines de beurre sur une table verte. C'est très simple, mais c'est très bien fait. Ça fait partie du technique tout à fait admirable de Rimbaud. Il se met en rapport aussi avec le temps. Il donne après tout un sous-titre, 5 heures du soir. On pourrait très bien se dire, mais qu'est-ce que cela peut nous faire, que ce soit à 4 heures du soir ou 2 heures du matin. C'est à 5 heures du soir, il y a une raison, parce qu'il y a le soleil qui vient, mais la raison la plus profonde, me semble-t-il, c'est qu'il tient à écrire une poésie sur où je suis et quand je suis. Dès le début, on sait que depuis 8 jours, il déchire ses bottines. Et notons les temps des verbes. Je reviens maintenant aux verbes. J'avais déchiré, au premier vers. J'entrais, imparfait, au vers 2. Je demandais, passé historique, vers 3. Et cela continue. J'allongeais, je contemplais. Ce fut, m'apporta, m'emplit. Et puis à la fin, dernier vers, que dorait un rayon, imparfait. Autrement dit, il observe le temps qui passe. Le monde est, grâce à son passage par le temps. Je serais tenté de dire que c'est un peu anglais. Je vous ai parlé souvent du fait que dans un poème anglais, il est tout à fait normal de suivre un événement, un geste, comme il se développe dans le temps. Mais je dois dire que la meilleure formulation de l'idée que je connaisse est espagnole. Antonio Machado, on doit dire Antonio Machado, en français, 1875-1939, un grand poète que l'on connaît mal en France, bien que qu'il y ait une sélection de ses poèmes, je crois, dans la collection Poésie Gallimard. Machado, grand poète que j'ai découvert quand j'étais étudiant, qui a écrit en 1931 un petit texte qui s'appelle « Poética », la poétique, où il dit que les deux impératifs de la poésie sont l'essentialité et le temps. Les deux, parce qu'il faut évidemment que la poésie parle des choses essentielles, non pas dans le sens philosophique, mais simplement dans le sens de tout le monde, des choses profondes, radicales, fondamentales, etc. Mais que il faut le temps, parce que nous vivons dans le temps, et le danger de l'essence, c'est qu'elle peut, à n'importe quel moment, vous projeter dans l'intemporel et dans les concepts. D'où, dit Machado, sa définition de la poésie, la poesía es la palabra esencial en el tiempo. La poésie est la parole essentielle dans le temps. La parole essentielle dans le temps. Il me semble que c'est une très belle définition. Il dit aussi, et cela nous intéresse pour l'idée de l'être, que les idées du poète sont des intuitions directes del ser que deviene, de l'être qui devient, de l'être qui devient. J'aimerais bien trouver un moment de parler de cette petite expression qui semble très anti-platonicien, anti-platonicienne, mais qui ne l'est peut-être pas au fond. L'être qui devient. Machado était influencé, entre parenthèses, par Bergson. Je parle de quelque chose qui aurait pu être anglais, que je trouve dans un poète espagnol, mais ce poète espagnol a été influencé par Bergson, qui parle, après tout, de la richesse de l'être dans la durée. Il écoutait Bergson au Collège de France en 1911. T.S. Eliot l'avait écouté en 1910 et était aussi un peu influencé par Bergson, comme l'étaient Proust et d'autres, ce qui fait penser qu'on n'est peut-être pas absolument inutile comme professeur au Collège de France, du moins qu'on peut ne pas l'être. Et je remarque aussi que pour se mettre en contact avec les lieux, je reviens aux lieux, son vocabulaire est situé dans les lieux, très précisément par les mots qu'il utilise. Épeuré, par exemple, épeuré à la place d'apeuré. Épeuré n'est pas inconnu au XIXe siècle, mais ce n'est pas le mot habituel, normal, pour dire apeuré. Et c'était surtout un mot régional. C'est un peu comme le mot flash à la fin du bateau ivre, lorsqu'il parle d'un petit enfant qui met un bateau en papier à flotter sur, non pas une flaque, mais une flash. C'est à la fin du poème. C'est très émouvant, finalement. Il revient non seulement à l'enfance et à l'ordinaire et au quotidien, précisément, mais même à un mot régional, un mot spécifique, comme le mot flaque n'est pas spécifique. Et le poème La Maline est particulièrement riche en ce genre de mots. C'est peut-être le moment de lire La Maline. Dans la salle à manger brune que parfumait une odeur de vernis et de fruits, à mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets belge et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge, heureux et coi. La cuisine s'ouvrit avec une bouffée et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichue, moitié défait, malignement coiffée, et tout en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant de sa lèvre enfantine une moue, elle arrangeait les plats près de moi pour m'aiser. Puis comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser, tout bas, sans donc, j'ai pris une fois sur la joue. Alors évidemment, la maline et malinement au vers 8 sont une prononciation régional de maligne et de malignement, une prononciation spécifiquement des Ardennes, d'où venait Rimbaud. En écrivant « Je m'épatais », il est possible que Rimbaud ait inventé la forme pronominale du verbe, qui existait bien. Ailleurs, dans le poème « À la musique », il écrit « Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins », on voit bien ce que signifie le verbe, « Je m'épatais », me semble être une invention de Rimbaud. Donc, je prononce bien le C, donc, au vers 14, est un emploi belge du mot, comme est le tour une fois. Autrement dit, Rimbaud ne s'amuse pas simplement, il se situe par des mots qui font parler un lieu, qui font parler le nord de la France ou la Belgique. Il se met en rapport aussi avec ce qui l'entoure par les sens. Revenons au cabaret vert, où c'est évident, la vue est partout, la table est verte, par exemple. D'où une raison de dire que la table était verte. On est en contact, en quelque sorte, avec la table par les yeux qui ne voient pas simplement une table. On ne peut pas voir une table, il faut que cette table ait une couleur quelconque, et la couleur est verte. Il y a l'odorat, bien sûr, le jambon parfumé. Il y a le goût, le jambon est tiède. Il y a le toucher, déchiré au caillou. Et il y a l'ouïe qui est sous-entendu, si je puis dire, dans « Je demandais, rieuse, m'emplit la chope ». Encore une fois, dans un poème anglais, on dirait tout de suite « m'emplit la chope » est une sorte d'imitation du bruit que l'on fait quand on verse de la bière dans une chope. Peut-être qu'il faudrait le dire, d'ailleurs, à propos du poème de Rimbaud. Et c'est la même chose dans « La maligne ». Il ne s'agit pas de la synesthésie, d'une correspondance entre les sons, il ne s'agit d'ailleurs d'aucune théorie. Rimbaud se met en rapport par les sens avec les objets, une table par exemple, avec une personne, la fille aux yeux vifs, le soleil qui dort la mousse de sa bière, avec le lieu, avec le temps, avec les petits événements successifs, et aussi, bien sûr, avec la fille. Et il le fait malignement. Il demande du jambon, et parle plus tard du jambon tiède, du jambon rose et blanc. Le jambon revient trois fois, la dernière fois par anaphore, et c'est une autre réminiscence de la poésie renaissante, où le rose et le blanc sont, comme vous le savez, les couleurs des femmes. Ici, ce sont les couleurs d'un jambon. Ça fait partie du décontracté et du comique du poème, où il parle non pas d'Hélène ou de Marie, etc., mais d'un jambon, mais où il parle en même temps de la fille. C'est tout à fait clair, d'ailleurs, dans « La maligne », où il parle de sa joue, un velours de pêche rose et blanc. C'est du Ronsard. Et c'est un rapport tout à fait détendu et de connivence. Et puis, finalement, il se met en rapport avec le soleil. Et tous ces détails piqués dans ce qui l'entoure, jusqu'au plat colorié sur lequel le jambon est servi. Pourquoi est-ce qu'il est colorié? Pourquoi le dire? Parce que les couleurs sont rieuses. Ça fait partie du plaisir de Rimbaud comme de nous. Tous ces détails piqués et le rapport avec le lieu, le temps qui passe, la servante, l'autre être humain du poème, tout cela trouve sa place dans un grand tout représenté à la fin par le soleil. Et remarquons la façon dont Rimbaud s'insère dans cette réalité. Au début, il est « je ». J'avais déchiré, j'entrais, je demandais, j'allongeais, je contemplais. Et jusque-là, ça semble normal. Il dit ce qu'il a fait. Bon, OK. Ensuite, vers 7, « ce fut ». C'est très beau. C'est un verbe impersonnel qui intervient tout d'un coup. « Et ce fut adorable ». Et après cette intervention de l'impersonnel, Rimbaud devient « me ». M'apporta, m'emplit. Il est remplacé, en quelque sorte, par le monde, la chope avec sa mousse et un rayon de soleil. À la fin du poème, Rimbaud est là, bien sûr, parce qu'il regarde, il nous parle, mais il disparaît, en quelque sorte, dans son rapport avec ce qui l'entoure et surtout avec cette chope de bière et avec le soleil. C'est très, très bien fait. On voit que le génie de Rimbaud fonctionne à tous les niveaux et que dans un poème, apparemment, tout ce qu'il y a de plus simple, on peut presque s'imaginer l'écrire. Je suis allé à Charleroi, je suis entré dans un bistrot, j'ai demandé du jambon, etc. Ça semble extrêmement simple. Où est le vrai Rimbaud, se dit-on. Mais quand on le regarde de près, on voit qu'il médite, peut-être presque inconsciemment, mais il y a quelque chose dans son esprit créateur qui le pousse à le faire. Il médite sur le jeu. Par l'intervention de l'impersonnel, devient « me », et puis finalement disparaît tout doucement, pas avec angoisse, d'une façon très décontractée, très heureuse, devant une chope de bière, sa mousse et le soleil. Notons aussi un soleil arriéré. On dirait qu'en réponse à Rimbaud, qui s'approche du réel, le réel, sous la forme du soleil, s'approche de lui et semble attendre avant de se coucher afin de dorer la mousse de sa bière. C'est très beau quand on y pense, c'est même un peu mystérieux. Et le poème est merveilleusement bien composé, aussi bien composé que n'importe quel des grands poèmes de Rimbaud. Jusqu'au fait qu'avant d'arriver au soleil, nous sommes dans un petit cabaret, juste avant d'arriver au soleil, qui est évidemment immense, on passe par une chope de bière avec sa mousse immense. Et c'est l'être du monde qui devient décontracté, c'est-à-dire libre et discipliné, grâce à l'écriture décontractée et disciplinée du poème. Et je note que le poème est grand aussi. C'est un poème sur quelque chose de tout à fait quotidien, de trivial. Pourquoi écrire un poème disant ce qu'il dit, hein ? C'est un poème apparemment petit, mais le monde est grand. Les tétons de la fille sont énormes. La chope est immense. Et Rimbaud lui-même s'agrandit, bien heureux, j'allongeais les jambes. Alors, troisièmement, c'est un poème sans ambition, apparemment, écrit avant le vrai Rimbaud. En un sens, oui, nous ne sommes pas encore dans les grands poèmes des nouveaux vers, par exemple, ou dans l'écriture poétique de la prose de Rimbaud dans Une chasse à l'enfer, dans Les Illuminations. En un sens, c'est vrai. Et il s'agit d'une fugue qui n'est pas encore la fugue définitive. Et dans une lettre à Isambard du 25 août 1870, au cas où vous vouliez le consulter, 25 août 1870, Rimbaud dit qu'il désire, je cite, des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. Et ces deux poèmes sont des bohémienneries. Le rejet du mot belge dans La Maline est peut-être là aussi pour que Rimbaud prenne conscience du fait qu'il est libre parce qu'il est ailleurs, parce qu'il n'est pas à Charleville, il est en Belgique. Et curieusement, dans cette fugue qui n'est pas encore définitive, il se voit comme Villon. Et ce n'est pas une idée, c'est certain. Il se voit comme Villon. Dans La Maline, au vers 12, il écrit « Elle arrangeait les plats près de moi pour m'aiser. » Et tout le monde a vu que c'est une allusion à une ballade dans le Testament de Villon, une ballade qui n'a pas de titre, mais à laquelle Marou, dans son édition, Clément Marou, dans son édition de Villon, a donné le titre « Les contredits de Franc Gontier ». Une petite ballade scabreuse, satirique, anticléricale, où Villon regarde par un trou de mortaise un gras chanoine et dame sidoine qui boivent continuellement des aphrodisiaques et qui se mettent, vers 1479, qui se mettent nu à nu pour mieux décor s'aiser, s'apostrophe aisée. Et dans ce poème, s'aiser rime avec, on peut le deviner, baiser. Et dans le poème de Rimbaud, m'aiser rime avec le verbe baiser. Et qui sait quel autre sens il donnait dans son esprit à ce mot. Et c'est encore un autre exemple, entre parenthèses, de la présence souterraine de Villon dans la poésie française. Et dans la fugue du mois de septembre, pas celui-ci, Rimbaud était vraiment un peu comme Villon, dans le sens qu'il est devenu hors la loi. Il était arrêté, il fut arrêté à la gare du Nord parce que son billet n'était pas valable. Et il devait penser vraiment qu'il incarnait Villon, mais qu'il répétait l'aventure de Villon. Et la comparaison avec Villon fait ressortir néanmoins ce qui manque à ses poèmes, c'est-à-dire le mal. Il suffit de penser à Villon pour le voir. La maline donne le ton. Amonèse, heureux et quoi ? Pour m'aiser. Et il est vrai qu'il écrit pendant le même mois d'octobre, quel beau mois pour la poésie, Le Dormeur du Val, Le Dormeur du Val que vous connaissez, où devant le spectacle de ce très jeune soldat mort dans un pré, il écrit ce poème où se trouve une sorte de dérision coléreuse de la poésie de la nature et du parnassianisme. Il écrit ce poème en même temps, mais dans les deux poèmes, on voit qu'il se contente d'être décontracté à son aise. Il n'est pas question de dire qu'il aurait dû ou aurait pu développer plus tard une autre sorte de poème. Je ne suis pas revenu au premier poème de Rimbaud pour dire quelque chose d'aussi sorte que si seulement il était resté avec ces poèmes-là. Mais il y a néanmoins beaucoup à apprendre ici, beaucoup pour le poète de maintenant. Ces deux poèmes, comme je l'ai dit, sont extrêmement bien écrits. Et écrire bien, ce n'est pas simplement une façon de bien mettre les mots ensemble. Les mots sont bien écrits parce que la forme des poèmes correspond parfaitement à ce que Rimbaud découvre en écrivant les poèmes. Il découvre quelque chose à propos de son moi, il découvre quelque chose à propos de son rapport avec le monde ambiant, il découvre quelque chose à propos de ce monde ambiant, du temps et du lieu. Et le fait d'écrire des poèmes aussi personnels sur ce que je faisais permet de comprendre aussi que le je est autre. On peut le voir dans des poèmes beaucoup plus simples que ceux que Rimbaud va développer quelques mois plus tard, vraiment quelques mois plus tard. Déjà dans ces poèmes-là, le je qui parle n'est pas exactement le je de tous les jours, et le je qui parlait dans un poème et qui appartient maintenant à ce poème n'est pas du tout le je du poète qui relit ce poème après coup. Je pense que c'est très important. Homère le savait déjà, c'est le célèbre moment où Ulysse, en écoutant Démodocos chanter les aventures d'Ulysse, sans savoir qu'Ulysse est devant lui, Ulysse se cache le visage pour pouvoir pleurer. Et il pleure en partie parce qu'il se rend compte que ce grand héros, Ulysse, non seulement il ne l'est plus, parce qu'il n'a plus la vigueur qu'il avait à cette époque-là, il n'a plus la raison d'être qu'il avait à cette époque-là, qui était de vaincre Troie, etc., mais aussi parce qu'il se rend compte que dans le récit de Démodocos, il est devenu le héros d'un poème et que l'Ulysse qu'il est n'a jamais été cet Ulysse qui se trouve dans un poème. Et on pourrait le dire d'un poème tout simple de Rimbaud, le Rimbaud qui, à l'âge, disons, de 17 ans, lirait ces deux poèmes, verrait que le je qui y parle n'est pas Rimbaud. Ce je est un autre. Et c'est un poème, ce sont des poèmes qui appartiennent à un genre mineur, ok, mais il suffit de penser à la peinture de genre aux Pays-Bas au XVIIe siècle, par exemple, puis à Vermeer, nous le ferons d'ailleurs dans deux semaines, pour voir que le genre contient toutes les possibilités imaginables. Et pour penser que déjà dans ces deux poèmes, Rimbaud est allé très au-delà de simples poèmes sur ce que je faisais à un certain moment dans un certain restaurant. Et ce qui est bien dans les deux poèmes, pourrait-on penser, c'est là que je termine, c'est précisément le fait qu'il ne cherche pas autre chose. Il y a une leçon de poésie ici. Pour n'importe quel poète, le dernier vers d'Au cabaret vert, que j'ai déjà cité et commenté, que dorait un rayon de soleil arriéré, se met en rapport avec la poésie du passé, c'est vrai, mais signifie surtout qu'on est heureux dans le monde et dans sa lecture des poètes du passé. Au vers 225 du Westland d'Eliot, la terre gaste, on lit ce vers. A drying combination touched by the sun's last rays, ces combinaisons qui sèchent, caressées par les derniers rayons du soleil. Il y a la même idée appliquée au trivial, une mousse de bière, ou les combinaisons d'une jeune secrétaire, la poésie du coucher du soleil. Mais chez Eliot, il y a la parodie d'une certaine poésie. Il y a du dégoût. Il y a la pensée, précisément, de la terre gaste qui envahit ce vers comme elle envahit tous les vers du poème. La pensée du monde moderne, déshérité. Et c'est merveilleux, c'est très bien, c'est très beau. Mais dans le vers d'Eliot, on voit énormément autre chose. Alors que dans le vers de Rimbaud, on est simplement dans le poème, dans le vers, dans le plaisir du poète. Et en disant « voici ce qui s'est passé en un lieu précis et selon le déroulement du temps, et voici ce que j'ai éprouvé », Rimbaud montre combien le poète, comment le poète peut se mettre en rapport avec lui-même et avec le monde de façon, au fond, assez profonde, et comment la poésie peut s'engager dans l'ici-maintenant que nous habitons tous. La semaine prochaine, je parlerai de tout autre chose, de Claudel, du début du poème Les Muses, qui est la première des cinq grandes odes. Je vous remercie.